Il y a une dizaine de jours à peu près, le Qatar était présenté comme l'un des principaux ennemis donc de l'organisation de l'État islamique. Tout comme l'Arabie Saoudite. L'ancien émir du Qatar, Hamad bin Khalifa, a été décrit comme le toutou des États-Unis. C'est donc effectivement aujourd'hui un pays qui est comme l'Arabie Saoudite, qui est une cible de ces organisations-là.
Fabrice Balanche, message hier du chef du Hezbollah libanais. Il estime que les djihadistes, qui sévissent dans le monde entier d'ailleurs, portent davantage atteinte à l'islam que les œuvres qui se moquent de Mahomet. Est-ce que ce message peut influencer les musulmans ?
Nasrallah, il est chiite, hein, c'est le discours chiite, c'est le discours de l'Iran qui condamne évidemment les djihadistes sunnites soutenus par l'Arabie Saoudite et le Qatar, je le répète. Alors on parle évidemment de Daesh, l'État islamique. Dave Thompson parlait tout à l'heure d'Ahrar al-Sham. Ahrar al-Sham, il faut quand même savoir que c'est un groupe salafiste qui combat effectivement l'État islamique, mais pour des querelles, je dirais, internes de pouvoir, et qui partage exactement la même idéologie que l'État islamique. Donc on ne peut guère s'appuyer quand même sur des groupes comme Ahrar al-Sham. Le message de Nasrallah aura, à mon avis, peu d'impact parce que il va se limiter évidemment à la sphère chiite. Après, il n'est pas dénué non plus d'arrière-pensée géopolitique, c'est-à-dire le discours iranien qui essaie de nous entraîner de nouveau vers une ouverture vers l'Iran, une alliance vers l'Iran, faire en sorte qu'on abandonne nos liens avec l'Arabie Saoudite. Un discours qui porterait davantage, ça serait celui évidemment des autorités sunnites, Al-Azhar en Égypte, enfin ces grandes autorités sunnites de l'islam, mais un discours en même temps qui soit sincère, parce que quand l'Arabie Saoudite effectivement participe à la coalition contre l'État islamique, il faut quand même reconnaître qu'il participe assez mollement. Et d'un côté, l'État saoudien va peut-être envoyer quelques forces, mais d'un autre côté, ils sont assez complaisants à l'égard des chers et qui ont des discours très radicaux sur les télévisions religieuses, comme le cher Al-Arour, par exemple. Et puis, ils laissent également des Saoudiens financer les groupes islamiques. Parce que pour l'Arabie Saoudite, l'ennemi, c'est l'Iran. C'est ça la cible. Et quel que soit, il faut utiliser tous les moyens possibles pour venir à bout de l'Iran. Alors aujourd'hui, ils commencent peut-être un petit peu à avoir peur parce qu'ils ont été victimes d'attentats à la frontière, notamment ces dernières semaines. Mais la politique, elle est tout de même là. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est pas un monolithe. Vous avez différents groupes qui sont pas d'accord entre eux. Et pour des querelles de succession internes à l'Arabie Saoudite, vous pouvez avoir certains qui vont soutenir les groupes djihadistes alors que les autres vont plutôt pencher du côté américain.
Donc la France serait à la fois victime de sa politique étrangère dans les pays concernés et de la situation régionale, une victime collatérale.
Oui, la France est une victime active. Alors certes, au Mali, nous avons été combattre les djihadistes, mais en Syrie, nous avons été complaisants à leur égard. Et ça, c'est indéniable.
Merci. Merci à vous, Fabrice Balanche. On va revenir du point de vue du renseignement sur un des problèmes qui est de savoir à quel moment les djihadistes peuvent agir. Éric Denessé, on sait que ce sont souvent des opérations prévues de longue date.
Oui, mais en même temps, ce ne sont pas des opérations de grands professionnels. On a là affaire à des individus qui ont profité d'une action d'opportunité. Il y avait beaucoup de ratés, ils n'avaient pas le code d'accès, ils n'avaient pas préparé leur itinéraire de repli. Donc, j'ai entendu beaucoup de bêtises dans les médias ces 2-3 derniers jours. Il y a eu d'abord une surréaction par rapport au phénomène. Rappelons que même si nous avons à pleurer la mort de 17 personnes et l'acte horrible auquel nous avons assisté, le même jour, il y a 35 morts à Sanaa dans un attentat à la bombe. Il y en a plus de 150 dans l'est du Nigeria. Donc on aurait pu garder un peu de mesure. Maintenant, empêcher des individus de cette nature de passer à l'action, c'est très difficile. Vous savez, on est beaucoup plus sur des profils de braqueurs ou de criminels qui se coordonnent à 2 ou 3, voire à peine plus, et qui décident de lancer leur action que d'un réseau très structuré qui ont une vraie logistique, qui travaillent pendant des mois sur un objectif avant de le lancer. Voilà, moi je voudrais aussi rajouter que je suis assez sidéré par le côté déni, oui, de ce que j'entends sur votre plateau et les deux autres invités que je ne connais pas, sur la naïveté à l'égard de l'Arabie Saoudite et du Qatar, du rôle de leurs services de renseignement dans le financement du terrorisme et de ce double jeu qu'ils ont sur Daesh. Et je ne peux pas laisser passer des choses comme ça quand j'entends dire que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont finalement des victimes du terrorisme islamique.
Sur ce point, le Béni Oui va répondre. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'Arabie Saoudite, tout comme du Qatar, et à tout point de vue, simplement aujourd'hui, rien n'accrédite la thèse que l'État islamique soit soutenu d'une manière ou d'une autre par un soutien public étatique saoudien, absolument rien, et tout montre le contraire, c'est-à-dire que l'État saoudien est aujourd'hui une cible de choix avant même d'autres puissances de l'État islamique. L'État islamique est combattu par l'Arabie Saoudite, donc cette thèse elle est aujourd'hui impossible à soutenir factuellement, avec des éléments tangibles.
Oui, une réaction, Éric Donnessé?
Non, ben évidemment, on ne peut pas accepter des arguments pareils. C'est une vision excessivement partielle des choses.
Mais sur quoi vous fondez-vous pour dire cela?
Vous fondez-vous pour dire que l'Arabie Saoudite ne participe pas au financement?
L'Arabie Saoudite participe à la coalition. L'Arabie Saoudite participe à la coalition internationale. L'Arabie Saoudite finance et arme des groupes qui combattent l'État islamique.
Comment vous pensez qu'un régime comme ça soit les mains propres?
Non, mais donnez-nous des éléments factuels, monsieur Dénissé. Donnez-nous des éléments factuels.
Ben écoutez, moi je vous retourne la question.
Je viens de vous les donner.
Mais non, puisque c'est vous qui êtes en train de poser des questions. Alors je vous dis, allez jusqu'au bout de démonstration. En quoi l'Arabie Saoudite est-elle aujourd'hui innocente dans les actions qui se passent?
On va pas aller plus loin. On voit que vous n'êtes pas d'accord. Du point de vue de l'arsenal législatif en France contre le terrorisme, Guilhem Deltaye, quel est-il aujourd'hui? Est-il suffisant?
Bah suffisant, la question est éternelle hein, finalement, puisque le risque zéro n'existe pas. Les autorités d'ailleurs le martèlent, on l'a entendu encore tout à l'heure de la part de nos interlocuteurs. Il a été renforcé hein, ce dispositif législatif ces derniers mois par une loi notamment qui avait été présentée par Bernard Cazeneuve, qui aujourd'hui permet donc l'interdiction administrative de sortie du territoire. C'était l'une des mesures phares, ce qui permet en fait d'empêcher les départs si les proches signale au numéro vert qui a été mis en place au printemps une volonté de départ d'un membre de leur entourage. Et bien aujourd'hui, les autorités françaises ont la possibilité de lui retirer son passeport et de lui interdire de quitter le territoire. Donc ça, c'est préventif. Une autre mesure phare de ce dispositif législatif était l'introduction d'une entreprise individuel de terrorisme. Jusqu'à présent, on parlait d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise de terroristes. Ces associations de malfaiteurs voulaient dire qu'il fallait au moins deux personnes et que parfois le lien n'est pas forcément établi avec d'autres personnes, et donc la loi manquait d'un instrument juridique finalement pour poursuivre ces gens-là. Après, il y avait d'autres mesures qui avaient été un petit peu critiquées, notamment à la gauche de la gauche, sur le côté liberticide, qui était sur les surveillances électroniques que permet cette nouvelle loi.
Oui, parce qu'on entendait tout à l'heure un commissaire de police sur RFI qui réclamait des mesures supplémentaires, qui réclamait en filigrane qu'on aille peut-être jusqu'à ce qu'ont fait les Américains après 2001, après les attentats du 11 septembre.
Mais c'est un éternel débat. Effectivement, peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin. Maintenant, d'autres personnes diront que non, on a déjà même franchi la ligne rouge, et souligneront l'idée que finalement c'est ça que veulent les terroristes, nous priver de notre état de droit, nous faire vivre dans un état un peu à la Big Brother, qui nous surveillerait de partout, et que tomber dans cet excès-là serait en fait une victoire des terroristes, sachant que de toute façon le risque zéro n'existe pas, et qu'on a beau avoir un régime très autoritaire, il y a toujours une possibilité d'organiser des attentats et des actes terroristes.
Merci Guilhem Deltaye. L'édition spéciale continue sur RFI, il est 13h48 à Paris.
Édition spéciale sur RFI.
Édition spéciale à la veille de la grande manifestation à Paris, hommage aux journalistes de Charlie Hebdo abattus mercredi au lendemain de l'assaut mené à Dammartin en Gouale et à la porte de Vincennes à Paris. Question à Fabrice Balanche, chercheur spécialiste du Moyen-Orient. Les caricaturistes arabes sont inquiets. On a vu et entendu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux pour les tueurs de Charlie Hebdo.
Oui, tout à fait. Soutien sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. En France, à Besançon, le quartier des 408, vous avez eu des tirs de joie. À Ain Helouay, au Liban, dans le camp palestinien, également des tirs de joie. Donc on se réjouit de ce qui s'est passer à Charlie Hebdo, comme on a pu se réjouir du 11 septembre dans certaines catégories de la population en France ou dans le monde arabe. Et il est sûr que ça va être un encouragement pour tuer également des journalistes, des caricaturistes dans le monde arabe.
Oui, justement, Eric Denessé, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est possible de surveiller les réseaux sociaux et de les utiliser pour tenter de confondre d'éventuels complices ?
Oui, c'est bien évidemment beaucoup plus facile de surveiller des réseaux sociaux et des sites internet que des individus. On voit fleurir depuis quelques jours ces prises de position tout à fait favorables à l'exécution, comme ils le disent, des caricaturistes de Charlie Hebdo. Ceci dit, ce n'est pas nouveau, comme Fabrice Balanche le rappelait, on voit ça depuis le 11 septembre 2001. On le voit même dans un centre d'altercation qui ont lieu dans les rues de France ces derniers jours. Je crois qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus parce qu'on aura toujours de tous bords des individus extrémistes et vu qu'on est en plein dans ce phénomène djihadiste en ce moment, il est presque normal que l'on voit les supporters de cette cause manifester leur joie par rapport à ce qui s'est passé.
Oui, on a pas mal, Guylaine Deltaï, pas mal d'incidents autour des mosquées en France. Ça, c'est un phénomène assez inquiétant qui n'est pas totalement nouveau, mais là qui on va dire qui est entretenu par les derniers événements.
Alors effectivement, il n'est pas totalement nouveau. Ça fait des années que des incidents existent. On a vu des têtes de porc déjà accrochées dans un certain nombre de lieux de culte musulmans. Mais là, les incidents se sont véritablement multipliés ces derniers jours. Hein. Depuis mercredi soir, il y en a eu plusieurs villes de France particulièrement. Et effectivement, ils ont été condamnés assez vivement, d'une part par le président de la République, par le ministre de l'Intérieur. Et c'était aujourd'hui peut-être l'une des inquiétudes des forces de l'ordre, qu'il puisse y avoir des représailles contre la communauté musulmane dans son ensemble. Et toutes les autorités politiques ont véritablement appelé à ne pas faire l'amalgame, de peur justement que ça puisse dégénérer.
Éric Denessé, quels sont les moyens nouveaux de pister les djihadistes en France ? Est-ce qu'on a d'autres idées pour améliorer leur enseignement ?
Non. Très sincèrement, mais pour une raison simple, c'est parce qu'on est aujourd'hui dans un système qui marche et un système qui a été remis en place à partir des années 95, parce que l'année pour les services de renseignement, la naissance de la menace djihadiste, c'est en gros le gang de Roubaix et à partir de là, un certain nombre de mesures ont été prises, puis il y a eu 2001 et puis il y a eu la Syrie, qui sont les trois tournants. Je crois aussi qu'il faut garder la tête froide. Le terrorisme aujourd'hui en France, c'est quelque chose d'extrêmement minime. En 60 mois, depuis le 11 septembre 2001, nous en sommes à 49 victimes du terrorisme, en intégrant malheureusement nos compatriotes qui ont trouvé la mort ces derniers jours, et tous ceux qui ont trouvé la mort en Somalie, au Mali ou bien en Algérie. Donc si on fait le rapport sur le temps, c'est terrible, vous me pardonnez ces statistiques, mais c'est 3,2 morts par an à cause du terrorisme islamique.
Il y a le symbole aussi.
Bien sûr, mais évidemment, mais c'est-à-dire qu'en quantité, c'est rien, et ça veut dire qu'en quantité, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, notre système fonctionne, malgré des ratés qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors il est bien évident que si on devait avoir dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent des attaques comme celles qui se sont produites, qui se multiplient, il faudrait probablement changer de dimension. Mais pour l'instant, malgré l'horreur de ce qui s'est passé ces derniers jours, gardons à l'esprit que nous avons finalement très très peu de victimes du terrorisme en France depuis 13 ans, comparé à l'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis.
Alors, justement, demain matin, avant la grande manifestation, il y a une réunion des ministres européens de l'Intérieur, le ministre de la Justice américain sera aussi à Paris. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une telle réunion ?
Écoutez, à chaque fois que les politiques se réunissent, il y a des effets d'annonce importants. Ce qui compte, ce sont les prises de décisions concrètes et surtout les relations entre services. Aujourd'hui, elles sont déjà très avancées. Il y a plus de 12 ans que les gens travaillent très étroitement ensemble. Alors, on peut toujours améliorer les choses marginalement. Les informations qui sont données par les Américains ne sont pas toujours fiables. On a parlé effectivement de l'information qui était donnée sur le séjour de Kouachi au Yémen, qui est évidemment vrai, mais les Américains s'étaient trompés, souvenez-vous. Il y a encore quelques semaines, il disait qu'un ancien officier de la DGSE travaillait aux côtés des islamistes dans les rangs de Daesh. Donc on ne peut pas toujours prendre ce que donnent les alliés au pied de la lettre. Mais chaque attentat de cette nature, avec son horreur, permet d'améliorer un peu plus la coopération.
Oui, la coopération, David Thompson, est-ce qu'il y a une coopération avec les pays arabes qui sont concernés directement par ces filières terroristes ?
J'avoue que je suis un peu démuni pour répondre à cette question, parce que moi je ne travaille pas du tout sur l'angle sécuritaire de cette question-là, mais tout démontre que jusqu'à récemment, il y avait très peu de coopération, d'abord entre les pays européens entre eux, ensuite entre les pays européens et les pays du Maghreb, et puis essentiellement entre la France et la Turquie. L'exemple du retour du beau-frère de Mohamed Merah, assez apocalyptique pour les services de renseignement, je pense que ça a traumatisé une bonne partie du ministère de l'Intérieur français, cet épisode, où, pour le rappeler, Mohamed, le beau-frère de Mohamed Merah était rentré après un séjour au sein de l'État islamique en Syrie, en échappant aux services de renseignement, qu'il était lui-même allé frapper à la porte du commissariat. Bon, à l'évidence, effectivement, là, il y avait un très très gros raté, et ça a donné lieu ensuite à des rencontres entre services officiels français et turcs pour éviter de répéter ce genre d'incident. Donc, la coopération, je pense que les pays européens et les pays concernés du monde arabe essayent de la renforcer, mais évidemment, elle est toujours toujours limitée aujourd'hui.
Fabrice Balanche, il y a quand même des pays arabes avec qui on coopère dans le domaine du renseignement ?
On a beaucoup coopéré avec l'Algérie à partir de 1995, et puis ça s'est poursuivi avec l'affaire sur le Mali. Le problème des services de renseignement des pays arabes, qui sont assez très bien faits, qui réussissent à pénétrer ces réseaux par des gens qui sont infiltrés, etc., c'est qu'en fait, c'est du donnant-donnant. Ce sont des informations qu'ils conservent dans un certain pouvoir de nuisance. C'est-à-dire que ils vont monnayer leurs informations, laisser faire, peut-être pas des attentats en France, mais en tout cas, voilà, mettre la France en difficulté pour ensuite qu'on vienne les solliciter. C'est aussi une politique de message. On leur demande pourquoi vous ne nous avez rien dit, pourquoi vous ne nous avez rien demandé. C'est être en fait de manière à ce que nous soyons un peu les obligés de ces services qui se considèrent un peu comme méprisés par les services de renseignement occidentaux. Donc c'est toute une relation qui est à améliorer, évidemment, avec les services de renseignement étrangers. Et là, vous avez par exemple les services libanais, les services syriens, avec lesquels il faudrait davantage collaborer.
Guilhem Daltaï.
Oui, alors la réunion de demain, elle a été annoncée jeudi soir par Bernard Cazeneuve, qui disait que c'était une façon pour ses homologues européens et américains de venir manifester leur solidarité envers la France, mais aussi d'échanger sur ce défi commun qui ne pourra être résolu qu'en commun, ce sont ses mots. Ça fait quand même, c'est un credo qui ne date pas de ces attentats, qu'on entend quand même dans la vie politique depuis très longtemps. Le terrorisme s'est invité au menu des conseils justice et affaires intérieures qui réunit les ministres européens de l'intérieur depuis bien bien longtemps, et pour autant il y a toujours quand même des blocages dans la coopération entre les services de renseignement, y compris européens, qui ne se fait pas parfaitement.
Éric Donnessé, la présence à Paris dans la manifestation de plusieurs dirigeants africains, dont les présidents nigériens et maliens, c'est une chose importante ?
Écoutez, oui, là je sors un peu de mon domaine de compétence. On ne peut que se féliciter de la présence de chefs d'État étrangers, africains, européens, à cette manifestation. Ça laisse au moins entrevoir que peut-être que le contexte politique d'une coopération sécuritaire va être facilité.
Tout à l'heure, vous étiez quand même assez sceptique sur l'avenir du renseignement. Finalement, tout va rester comme avant et on va attendre les prochains attentats ?
Non, je ne suis pas sceptique. Je pense aujourd'hui que le système fonctionne bien, que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Si la menace est multipliée par deux ou trois, il y aura un gap. En revanche, qu'on ne peut pas y faire face rapidement. C'est-à-dire que si on veut demain doubler nos compétences en matière de renseignement et de sécurité, au-delà des problèmes budgétaires, quand on voit la situation de notre pays, c'est un problème de formation. C'est-à-dire que les femmes et les hommes qui font ce métier, on ne les attrape pas en secouant un arbre. Donc il y a au moins un ou deux ans de formation sur des opérateurs de qualité. Et ça, c'est pas parce qu'on le décrète qu'on l'obtient immédiatement.
Merci à tous. Merci Fabrice Balanche, chercheur sur le Moyen-Orient, professeur à l'Université de Lyon. Merci à Éric Denessé, David Thompson, Guilhem Daltaï. Cette situation en France, nous la suivons en permanence sur RFI et notamment dans le prochain journal, dans une minute pile, pour être informé en permanence. Il y a aussi notre site internet, dossiers spéciaux sur le www.rfi.fr. A tout de suite.
Tous les jours, RFI vous informe en 13 langues.
Des Paris, RFI, Radio France Internationale, Technocourté, Fatang de Toulouse.
Il est 13h à Paris, Léa Charmel-Cher, bienvenue sur RFI, Radio France Internationale,
11h. Bonjour, Paris, RFI, Radio, bienvenue, Français, Bossaloman, Horacha.
17h em Paris, meio-dia no horário de Brasília. Começa agora o programa brasileiro da Rádio França Internacional.
RFI.
RFI.
Radio France Internationale.
L'hebdo sur le web, sur RFI.